Radio Okapi. Interface.
Le Parlement a débuté l'examen du projet du budget 2023 estimé à plus de 14 milliards de dollars, soit un accroissement de plus de 39% par rapport à l'année antérieure. Les organisations de la société civile saluent la revue à la hausse prévisionnelle du budget et estiment qu'il y a possibilité d'en mobiliser plus si le gouvernement renforçait la lutte contre la corruption et le foulage des recettes. Téné, l'ancien conseiller du chef de l'État honoraire en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, Luzolo Bambi, affirmait en 2018 que plus de 15 milliards de dollars échappaient au trésor public chaque année. Grâce à l'implication de la société civile dans la maximisation des recettes de l'État par la lutte contre la corruption et les détournements des capitaux, le budget de la RDC est passé de 7 à 14 milliards dans 3 ans, se félicitent les organisations impliquées dans la lutte contre la corruption. Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans Interface de ce jour, à la coordination et présentation, Michel Kifindangor. Encore une fois de plus, fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans votre émission Interface. Avant toute analyse, décryptons la notion de la corruption et son ampleur en République démocratique du Congo avec le professeur Boniface Kabissa. Il est interrogé par Jeff Ngoy.
La corruption, c'est le fait d'agréer un cadeau pour organiser ou ne pas organiser une vérité. La corruption est à l'origine de plusieurs infractions. Le détournement des deniers publics, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme sont générés par la corruption. Dans notre pays, la corruption n'a jamais été combattue. Tout ce que les gens font, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, on ne fait que soit constater l'existence de la corruption, mais on ne l'a jamais combattue. Chez nous, la corruption la plus dangereuse, c'est la corruption judiciaire. Parce que dans le monde entier, la corruption existe. La prévalence des corruptions judiciaires chez nous est non seulement pratiquée par les personnels judiciaires, mais par tous les citoyens du Congo.
Vous aviez dénoncé la disparition chaque année
de
15 milliards de
dollars. Non, ce n'était pas 15 milliards.
Le conseil
c'est le zoologie qui avait minimisé les chiffres. C'est 27 milliards qui continue
à ce jour.
Ah oui.
Le gouvernement a soumis pour examen au Parlement le projet du budget de l'exercice 2023 évalué à 14,16 milliards de dollars, soit un accroissement de 39% par rapport au budget 2022. Bien que cette augmentation soit saluée par tous, le coordonnateur des syndicats des services d'assiette publique, COSA, estime que 14,6 milliards sont encore insignifiants au regard de l'argent qui échappe du trésor public suite à la corruption. Léon Kalambay est notre premier invité dans Interface de ce jour. Monsieur Léon Kalambay, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment avez-vous évalué le budget de l'État pour 2023 qui est estimé à 14 milliards de dollars? Pensez-vous que c'est suffisant?
Je dis que ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'argent qu'on doit récupérer dans le cadre des budgets additionnels. C'est-à-dire tout ce qui est travaux qui concernent les minorations des recettes d'État. Nous sommes en train de réunir par tous les moyens avec l'IGF de manière que cet argent doit être récupéré et orienté au trésor public.
Le professeur Luzolo Bambilesa, ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, parlait de 15 milliards de dollars qui échappaient chaque année au trésor public. Est-ce que dans le contexte actuel, vous pensez que l'État continue toujours à perdre de l'argent en termes de milliards?
Je vous informe que jusqu'aux preuves contraires, les travaux réalisés par des régies financières, malgré qu'on parle qu'on travaille bien, oui, mais au fond, il y a ce qui échappe. Par exemple, prenons le cas du ministère de l'Environnement. L'environnement a beaucoup d'argent qu'on a déjà redressé avec l'IGF, mais des gérades pour faire que les recouvrements, ça bloque. Cependant que tous les éléments sont à leur disposition. Il y a 144 millions qui sont déjà redressés dans les enquêtes menées avec l'IGF et ces 144 millions traînent parce que la DGRAD ne veut pas faire son travail de recouvrement total. Il y a quelque chose de louche qu'on constate dans ce cas-là.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Interface.
Quelle ampleur a atteint la corruption en RDC par rapport aux autres pays africains et mondiaux? Et quelles sont les conséquences de la corruption sur les développements ou les sous-développements du pays? Tentative de réponse avec le professeur Roger-Claude Liuanga, consultant au PNUD et spécialiste dans la lutte contre la corruption.
D'après les indices de l'organisation Transparency International, la RDC occupe la 170e place sur 180 sur la liste des pays qui connaissent une prévalence de la corruption de manière élevée. D'après plusieurs publications, y compris de la Banque mondiale ou encore des organisations internationales non gouvernementales, la corruption contribue à la pauvreté et la corruption contribue à la mauvaise gouvernance. En luttant contre la corruption, en essayant de juguler les effets de la corruption, bien entendu, cela permettra indirectement ou directement à résoudre la question de la pauvreté parce que l'argent qui doit être ou les moyens qui doivent servir la communauté, si ces moyens-là sont détournés et que si à travers ces ateliers pour équiper les organisations de la société civile de jouer un rôle beaucoup plus actif à surveiller les actions gouvernementales et bien entendu les gens seront beaucoup plus aguets. Il y aura de moins en moins des actes de corruption.
Pour le président de l'Association des volontaires du Congo, la corruption, la concussion, les trafics d'influence et l'enrichissement illicite sont devenus un mode de vie en RDC. Doufi Natabou est au micro de Bernard Danyangi.
La vie des Congolais, c'est la concussion, c'est la corruption, c'est l'enrichissement illicite, c'est le trafic d'influence. Celui qui n'a pas son frère au niveau supérieur, il va pleurer. L'argent de l'État, on le met dans leur poche au lieu de mettre cet argent dans la caisse de l'État. Je vais vous donner un exemple. Allez au parquet, tout ce qui est comme frais, on met dans leur poche. Où est-ce que vous allez trouver au monde qu'on est en train de vendre les mandats d'amener, les convocations, les mandats de comparution, tout ça est vendable. On vient solliciter, donner $100, on te donne le mandat d'amener pour aller humilier les gens. La caution des mises à liberté provisoire. Même si tu donnes $2000, on va écrire soit 200 francs sur l'ordonnance des mises à liberté provisoire. Nous sommes devenus comme des mercenaires dans notre pays. Chaque jour là-bas, je passe à l'auditorat, les gens souffrent. Amende, $200. Amende, $100. Il met ça où? Dans sa poche. Un magistrat ne peut jamais demander, soit c'est un juge, demander à boire, demander le carburant à un justiciable. C'est la corruption.
Pour faire face à ces cancers qui volent l'avenir des enfants de la RDC, paupérisent le peuple congolais et maintient le pays dans le sous-développement, le programme des Nations Unies pour le développement compte mettre en place un réseau national des organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la corruption. On écoute Gilles Kabangou, coordonnateur du programme de lutte contre la corruption au PNUD.
Nous avons réuni un certain nombre d'organisations qui travaillent sur la thématique bonne gouvernance et lutte contre la corruption, ensemble avec la presse, pour renforcer les capacités de ces ONG et médias afin de former un réseau des ONG qui vont travailler sur cette thématique et accompagner les actions du gouvernement dans la lutte contre la corruption à travers trois volets. Premièrement, la prévention, deuxièmement, les plaidoyers et enfin, à travers les recherches et les publications des différents rapports sur le système national d'intégrité. C'est pour cela que nous avons estimé avoir aussi certaines structures aux côtés des actions du gouvernement pour essayer d'informer la communauté sur les méfaits de la corruption, mais aussi alerter les gouvernants sur les différents risques de corruption. Comment nous comptons réussir? C'est-à-dire, nous estimons que quand on fait un réseau, on met ensemble, en synergie, toutes les ONG qui travaillent sur cette thématique, nous pouvons réussir à impacter positivement au niveau de la prévention, au niveau de la répression et de la détection des cas de fraude, parce que les ONG jouent un rôle moteur dans la communauté en termes d'alerte de tous les cas qui peuvent s'avérer être vrais ou faux de la corruption.
Soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga na rapport amabe epai ya chef mpo na baninga bakoya ki anti valeur na corruption gabegi a banir estabilisation ya administration ya mboka toboye. Je suis la voix des sans voix o elobami na se na bimisi likolo avec un salaire de 200 000, tu as construit les immeubles partout. Tu as acheté les voitures, même construit les villas aux septième femmes. Tout cela, avec l'argent que tu as volé à l'État, aux
Rosa vraiment Moïbi. Avec les contrôleurs d'État très corrompus, la République est devenue bananière. Bioubibé et Léki. Cette fois-ci, mon condialobi rupturé, ouvre bien tes oreilles. Rupture est totale. Mangoya fonti à pétrole, botika ko détourné. Mangoya nzete paye kenda toyebite. Mangoya impona douane, bo verse na trésor. Mangoya mérite au sengi décentralisation totale. Trafic d'influence, et comme être mon abino. Bomela kabato, bokana kabato. Sala bato mabe, wonga na za famille à chef, wonga na za mwana mokondi, zéro, vraiment zéro. Mais ça n'a concours été, pour examen pour la koko ma mwana mokondi na Congo. Yeza kaka grâce, hexe de zèle, yango mabe na Congo mokondi à lobby. Rupture est totale. Mboka na yon internet eza mabe. Ma intox inutile na ba réseaux sociaux okokoma liboma. Le ballon se joue sur le terrain et non dans les gradins. Arrête avec l'impunité, le Congo doit aller de l'avant.
Tolérance zéro pour rupture corruption, c'est une chanson composée en 2016 par le musicien brazzavillois Roga Roga. À présent, nous recevons le président de la Ligue congolaise contre la corruption, la LICOCO. Avec Ernest Mpararo, nous décryptons en profondeur la problématique de la corruption en République démocratique du Congo. Ernest Mpararo, bonjour.
Oui, bonjour.
La République démocratique du Congo connaît de plus en plus un budget amélioré. Cette année, le gouvernement a présenté un budget évalué à 4,6 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo a la possibilité de recouvrer au-delà des 14 milliards?
Effectivement, nous pouvons être capables. Pourquoi? Parce que si nous mobilisons tous les francs congolais que nous perdons à partir par là, à travers la petite corruption, à travers la grande corruption, à travers les mécanismes de détournement des deniers publics, si nous mobilisons tous les francs qui peuvent entrer dans les caisses de l'État, nous pouvons avoir un budget conséquent. Nous constatons que les recettes propres, ça provient des impôts, ça provient des taxes. Cela veut dire que toutes les recettes que nous avons proviennent de trois régies financières. La DGRAD, la DGI et la DGDA. Actuellement, on peut féliciter la DGI qui essaye un peu de mobiliser beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que à travers la DGRAD, il y a encore des défis. Je prends un seul exemple, l'exemple de la police nationale de l'hygiène aux frontières, qui dépend du ministère de la Santé. L'année 2018 jusqu'en 2021, cette police a mobilisé dans ses propres efforts plus de 12 millions de dollars. Mais cet argent n'est pas entré dans les caisses de l'État. Ils ont mobilisé dans trois provinces seulement, Kinshasa, Katanga et Bas-Congo. Ils ont mobilisé plus de 12 millions de dollars. Mais l'argent n'est pas entré dans les caisses de l'État. Ça, c'est un seul exemple. Si nous partons devant les cours et tribunaux, chaque jour, les citoyens vont dans les greffes pour chercher X documents, pour suivre leurs dossiers qui sont devant les juridictions judiciaires. On paie de l'argent. Mais si je peux vous dire que la reddition des comptes, les pouvoirs judiciaires, à travers le Conseil supérieur de la magistrature, ils ont mobilisé moins de 30% des recettes. Ça, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Je prends l'exemple de la police nationale, particulièrement la police de roulage et la police judiciaire. Ce sont les deux services qui mobilisent aussi de l'argent. Mais je peux vous assurer que si vous regardez les statistiques de la DGRAD, vous constaterez que ces deux services, la police de roulage et la police des services judiciaires, ils ont mobilisé moins de 40%. Ils vont vous donner beaucoup d'explications, mais est-ce que nous, citoyens, nous avons besoin de ces explications? Nous n'avons pas besoin. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de défis.
Donc, en quelque sorte, beaucoup d'argent mobilisé dans ces pays partent dans les poches des gens plutôt que dans les trésors publics.
Effectivement, c'est ce qu'on constate et c'est ce qui est la réalité sur le terrain. Si vous partez dans les provinces, par exemple, il y a des provinces où les documents qui leur permettent de mobiliser l'argent n'arrivent pas.
Le conseiller spécial de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, je parle de du professeur Luzolo Bambilesa, parlait de plus de 15 milliards de dollars qui échappent au trésor public chaque année. Est-ce que vous partagez cette affirmation?
Je suis d'accord parce que, effectivement, nous venons 2023, il y a 14 milliards. Donc, moi, je suis d'accord, effectivement, je soutiens cet argument, étant donné que nous avons le potentiel de mobilisation des recettes, mais nous ne fournissons pas beaucoup d'efforts, on ne conscientise pas les citoyens à mobiliser, à surveiller la mobilisation des recettes. Regardez lorsque la pluie tombe, c'est l'inondation dans la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que l'argent qui devrait être affecté à l'assainissement de la ville, cet argent est détourné.
Alors, Monsieur Ernest Mpararo, 15 milliards qui échappent au contrôle de l'État, c'est quand même énorme. Et vous, Lali Koko, vous travaillez suffisamment dans ces secteurs de lutte contre la corruption. Est-ce que vous pouvez nous dire ici quels sont les secteurs où vous avez constaté que la corruption est beaucoup plus forte et empêche au pays d'atteindre ses objectifs développementaux?
Effectivement, parmi les secteurs qui génèrent, qui mobilisent beaucoup d'argent, le premier secteur, c'est les mines. Or, qu'est-ce qu'on constate là? L'exploitation industrielle, cela veut dire les sociétés industrielles, le plus grand défi qui se trouve dans la maximisation des recettes provenant du secteur minier industriel, c'est que les miniers, en complicité avec les agents de fisc, les agents de DGRAD, les agents de la DGDA, il y a détournement des fonds publics. Premier cas, par exemple, comment les miniers payent l'impôt sur les bénéfices et profits. Les rapports du Sénat venaient déjà de dire qu'entre 2018 et 2021, la RDC a perdu plus de 5 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que lorsqu'on compare tout ce que les secteurs miniers exportent, la valeur de cette exportation-là, si vous prenez 30% comme l'exige la loi, il y a eu un gap. Et ce gap-là, c'est de l'ordre de 5 milliards de dollars entre 2018 et 2021. Ça, c'est le premier cas. Ça, c'est le secteur minier. Le deuxième secteur, c'est le secteur des télécommunications. Lorsque nous achetons des crédits, est-ce qu'on nous taxe la TVA? On ne donne même pas de factures. Donc, c'est la compagnie qui déclare. Or, nous savons que les compagnies mentent. Le troisième secteur, c'est le secteur des transports.
Est-ce que vous avez des preuves que les compagnies mentent?
Effectivement, nous en avons, non? Il y a des dossiers, il y a des contentieux entre les secteurs des télécommunications et les services de l'État, que ce soit la DGRAD, la DGRAD ou la DGI. Il y a trop de contentieux là dans ce sens-là.
On va y revenir. Alors, le troisième secteur?
Le troisième secteur, c'est le secteur des transports.
Oui.
Les transports terrestres, les transports fluviaux, les autorisations de transport. Je peux vous assurer que même DGRAD n'a pas la liste de tous ceux qui doivent avoir l'autorisation. Les imprimés de valeur n'existent même pas. Si vous partez à Kalemi, vous demandez au commissaire lacustre de Kalemi, il utilise quel imprimé de valeur, il n'y en a pas. Le quatrième secteur, le plus grand, c'est le secteur judiciaire. Le cinquième secteur, c'est la police nationale.
Dernièrement, Lali Koko, vous avez dénoncé une corruption scandaleuse au niveau de la société Glencore. Et vous avez même demandé qu'on puisse divulguer la liste complète des personnalités congolaises qui ont été corrompues. De quoi s'agit-il concrètement?
Effectivement, c'est Glencore, par ce que je vous ai dit, non? Dans le secteur des mines, c'est le secteur où il y a pas mal de pratiques de corruption. Glencore fut sanctionné aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Suisse et au Brésil. La société a négocié avec tous ces pays-là et il a payé plus de 1,4 milliard de dollars là-bas. Mais la corruption qui a fait qu'on les sanctionne a été effectuée dans certains pays africains, dont la RDC, le Nigeria, le Cameroun et d'autres pays. Dans ces pays victimes où il y a eu des faits de corruption, rien n'a été fait. Personne ne connaît qui a reçu l'argent. Or, dans les décisions, dans les jugements finaux ou les communiqués finaux du ministère de la Justice américaine, ils disent que Glencore a utilisé entre 80 et 120 millions de dollars pour avoir des titres miniers ici en RDC. Donc, il a corrompu jusqu'à un montant de 120 millions de dollars à des officiels congolais. Lorsque nous avons publié ces documents, le parquet nous a appelés et nous a dit effectivement, le dossier se trouve au parquet, on est en train d'étudier avec Glencore, on est, ça fait combien d'années? Or, c'est très facile, c'est de les amener, leur dire, écoutez, on vous a sanctionné là, donc vous êtes en infraction. Ici, chez nous, vous devez aussi payer des amendes. Il a été, on a annulé des impôts. On cherche l'argent, mais les officiels congolais annulent des impôts en faveur de Glencore de l'ordre de 700 millions de dollars entre 2018 et 2021. Lorsqu'on a fait des investigations, la DGI nous a dit, non, ce n'était pas nous. Nous avions été sous pression de la présidence. Ah bon? Nous sommes dit, la présidence commence à s'intéresser dans les questions des impôts. Est-ce que la loi leur donne la compétence?
Ouais.
Mais c'est la présidence qui a tout fait pour dégréver 700 millions de, mon frère, 700 millions de dollars. En matière seulement de sécurité, si on peut prendre cet argent, ça peut nous acheter combien de drones pour combattre l'M23?
Du coup, on sent que la corruption est entretenue tant par les institutions ou alors par les animateurs de certaines institutions de ces pays que par les citoyens congolais eux-mêmes. Mais que faire maintenant pour combattre ce fléau?
Effectivement, la corruption est entretenue par les animateurs et les citoyens sont complices. Pourquoi? Parce que nous nous taisons. Est-ce que vous avez déjà vu une marche contre la corruption? Il n'y en a pas. Mais maintenant, que faire? Il y a des sanctions. Par exemple, le monsieur là de Congo Airways qui a retiré 700 000 dollars cash dans une banque. Or, c'est interdit. Congo Airways, le DG, il a retiré 700 000 dollars. Ce monsieur-là devait être pendu.
Ernest Mpararo, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Oyo Ekoya Eya ou Lettre au Président est une chanson composée toujours par le musicien brazzavillois Roga Roga en 2015. Quelle stratégie mise en place par le pouvoir public pour faire face à la corruption? Nous recevons dans cette émission le coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Thierry Mbulamoko revient sur l'état des lieux de la lutte contre la corruption en RDC. Monsieur Thierry Mbulamoko, bonjour. Quel état des lieux faites-vous de la corruption en RDC?
Bonjour monsieur. En ce qui concerne l'état des lieux de la lutte contre la corruption, avant toute chose, vous savez, depuis
que le président de la République, Tshisekedi, a été élu depuis son accession au pouvoir, il a déclaré la guerre à la corruption. Il ne s'est pas arrêté à la déclaration. Il s'est matérialisé par la création de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, l'APLC. Il lui a donné, en tout cas, l'ordonnance qu'il a créée, lui confie des missions, notamment de la prévention, la répression et le suivi des affaires en justice. Le chef de l'État a également eu à redynamiser des services de contrôle comme l'Inspection générale des finances, la Cellule nationale de renseignement financier et tout récemment, le chef de l'État a nommé les nouveaux animateurs à la Cour des comptes. Nous avons récemment suivi le bon score de la République démocratique du Congo dans le cadre de la mise en œuvre de la norme ITIE. Nous avons obtenu 85 points, ce qui n'est pas peu, avec les félicitations du conseil d'administration de ITIE mondial. Donc, tout cela, c'est pour vous montrer que le travail de la lutte contre la corruption porte ses fruits en République démocratique du Congo. Au moment où nous parlons, il y a une augmentation des cas de poursuites pour corruption, même si les condamnations ne se font pas toujours comme nous le souhaitons, et le recouvrement des avoirs tarde quand même.
Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour endiguer ces fléaux qui gangrènent la société congolaise?
Au niveau de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC, je vais parler de deux axes, l'axe prévention et l'axe répression. Au niveau de la prévention, le pays aujourd'hui, la République démocratique du Congo, dispose d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption sur 5 ans. Stratégie 2022-2026 qui s'articule autour des axes prévention, détection et poursuite et au niveau de la répression. Au moment où je vous parle, nous sommes dans la phase de l'élaboration du plan d'action et de sa mise en œuvre. Une fois terminé, nous reviendrons vers la presse pour vous donner la feuille de route.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans votre travail quotidien?
Dans cette lutte, il y a également des défis. Il y a beaucoup de défis. Le premier défi que nous rencontrons dans la lutte contre la corruption en RDC, c'est le défi de l'intégrité. Vous savez, les mentalités, les antivaleurs, c'est vraiment quelque chose. Il y a certains qui disent, je ne suis pas de ceux-là, mais qui pensent que la corruption est devenue une seconde nature. Mais moi, je crois que l'homme est capable de changer. Si nous prenons des dispositions qu'il faut, nous renforçons tous les mécanismes d'intégrité, je crois que nous sollicitons l'implication des familles, des écoles, des universités, de la société civile, des églises, des religieux. Autre défi, c'est les condamnations pour corruption et blanchiment de capitaux et les faits assimilés. Il y en a très peu. Nous souhaitons qu'il y ait plus de condamnations et récupérer les produits de la corruption, récupérer les produits de la criminalité financière. Dernier défi, c'est celui du cadre légal. En tout cas, notre arsenal juridique devrait être complété par l'Assemblée nationale du projet de loi portant blanchiment de capitaux, mais demain, ça sera un projet de loi spéciale anticorruption. Il y a aussi une loi que nous souhaitons, c'est la loi sur la protection des lanceurs d'alerte, la loi sur la protection des témoins et des experts. Ce sont des lois qui sont très importantes pour la République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et je n'oublie pas le régime de déclaration de patrimoine.
Thierry Mboula Moko, coordonnateur de l'APLC, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie et je remercie la Radio Okapi.
Fin d'Interface sur Radio Okapi. Cette émission vous a été produite grâce à l'appui du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Michel Kifindangoy vous l'a coordonné et présenté grâce au concours de Bernardin Nyangui sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué. Ces numéros sera rediffusé mercredi à 15h30 et 22h. Je prends rendez-vous avec vous pour un nouveau numéro lundi prochain à 8h30. Merci de rester fidèle à Radio Okapi. Au revoir.